Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. Marianne Paquette qui est là, qui vous accompagne au cours de cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui à l'émission, on aborde ce thème qui est peut-être un peu moins nouveau parce que on en parle souvent, celui du vieillissement de la population. Vous le savez, le paysage démographique ici au Québec est en pleine transformation. En fait, le Québec est l'endroit dans le monde où les gens vieillissent le plus vite, et ce, après le Japon. Juste pour illustrer un petit peu mes propos, en 2006, 14 % de la population avait 65 ans et plus. En 2030, ce sera 27 % de la population. Et bon, je juge à propos de se poser ces questions, dans quelles conditions nos aînés vieillissent, comment créer des environnements qui leur permettent de continuer à mener une vie active, en toute sécurité, en santé également. La démarche Municipalité Amis des aînés, ça propose différentes façons d'adapter les milieux, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, donc adapter des municipalités aux besoins des aînés. J'en parlerai en deuxième partie de l'émission avec Suzanne Garon, elle professeure titulaire à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Et puis d'abord, du 27 avril au 3 mai, aura lieu le 32e Défi sportif Altergo, un événement qui est unique au monde. Je vous en parle souvent, ça me tient à cœur comme événement. Et ça réunit, juste pour vous situer un petit peu, des athlètes professionnels qui ont des limitations fonctionnelles, mais également des jeunes de la relève. Et cette année, le défi attend plus de 4000 jeunes d'une centaine d'écoles partout au Québec. Comment ces enfants se préparent à vivre cette expérience? J'en parle à l'instant avec Liette Marcille, enseignante à l'école Victor Doré. Liette Marcille, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Paquette.
On est à 2 semaines du défi sportif. Comment se sentent vos élèves du côté de l'école Victor Doré?
Oh, nos élèves ont tous très hâte. Certains sont très fébriles, d'autres plus nerveux, mais une chose qui est certaine, ils sont prêts et ils ont tous le désir de bien réussir et de se surpasser.
Liette Marcille, ça fait combien de temps que vous vous préparez au défi sportif?
Ah, nous, dès la rentrée scolaire, on commence à se préparer.
De quelle façon?
À l'intérieur de nos cours d'éducation physique, en fait, là, on bâtit nos cours en fonction qu'ils développent toutes les habiletés nécessaires à la pratique des sports qui sont offerts pour eux au défi sportif. Puis même, ça fait 2 Jeux du Québec là, qu'on a des élèves qui participent en boccia.
Mm-hmm. J'imagine que, bon, pour préparer les élèves au départ, ils doivent choisir assez rapidement les sports qu'ils ont envie d'effectuer, de représenter au défi sportif.
Mais nous, en fait, en éducation physique, on veut vraiment qu'ils développent tous les habiletés nécessaires. Mm-hmm. On essaie de les pousser au maximum de leur capacité. Puis, pour qu'ils soient habiles dans tous ces sports-là.
Mm-hmm.
Puis ensuite, quand vient le temps du défi sportif et des inscriptions, là, selon leur réussite puis leurs intérêts, bien, on fait des choix pour qu'il y ait le plus de monde possible qui participe.
On va y revenir, bien sûr, à ces choix de sport-là, aux habiletés également, mais tout d'abord, Liette Marcille, je veux vous demander, bon, l'école Victor Doré, c'est une école qui accueille des enfants aux besoins particuliers. Parlez-nous un petit peu de leur profil à ces élèves-là.
Oui, bien, l'école Victor Doré, c'est une école primaire spéciale. On reçoit des élèves là, de 4 à 12 ans. Puis tous nos élèves, sans exception, ils ont un handicap physique.
Mm-hmm.
Puis on a plus de la moitié qui ont une déficience intellectuelle ou d'autres troubles associés.
Donc, on parle d'enfants qui évoluent en fauteuil roulant, j'imagine,
oui,
parfois.
Oui, on a des élèves qui marchent debout avec des troubles d'équilibre, d'autres qui vont se déplacer en marchette, en canne, en fauteuil roulant, oui, ou en fauteuil motorisé même.
Et on parle de 4 à 13 ans, je pense?
4 à 12, oui.
4 à 12 ans. 40 élèves participeront cette année de l'école primaire Victor Doré au défi sportif Altergo. Est-ce que vous les choisissez, ces élèves-là, ou c'est vraiment selon leur bon vouloir, leur désir?
Mais ils voudraient tous participer. Alors oui, il faut faire des choix, il faut les choisir, puis on essaie de faire en sorte que tout le monde ait sa chance dans le meilleur des cas.
Mm-hmm. Vous les choisissez comment?
d'après leur habileté, puis des sports naturellement qui sont défis sportifs. Comme au défi sportif, ils peuvent s'inscrire, on les inscrit en boccia. On a le volleyball adapté.
Mm-hmm.
On a aussi l'athlétisme. Ils font des courses, c'est ça. Il y a les courses pour les debout avec handicap physique, en tricycle, en marchette, en fauteuil. On a aussi la natation. Il y a des catégories pour handicap physique avec ou sans flotteur. Puis il y a même maintenant, on participe à la gymnastique rythmique.
Mm-hmm. Et on parlait beaucoup d'habileté. Qu'est-ce que, Liette, vous tentez de développer comme habileté chez vos élèves?
Mais au niveau de l'agir, en fait, c'est toutes les habiletés de déplacement, de locomotion, les habiletés de manipulation, qu'ils soient capables de lancer, d'attraper, de viser, de manipuler différents outils, des rubans. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'au niveau du travail d'équipe, on travaille la coopération, les stratégies pour les rôles là, d'attaquant, de défenseur, dépendamment du sport pratiqué. En fait, comme un programme régulier d'une école régulière, mais selon leurs capacités.
Mm-hmm. Et quels bénéfices vous observez auprès d'eux?
Ah, les élèves sont très valorisés à travers le sport. Ils ressentent beaucoup de plaisir. Ça augmente leur estime d'eux-mêmes. Tu sais, là, au défi, c'est rare les fois où ils peuvent faire de la compétition. Là, ils peuvent enfin faire une compétition. Ils peuvent gagner une médaille. Ça, c'est très important pour eux. Puis, ils peuvent montrer que même s'ils sont différents, mais ils sont capables de réussir.
Mm-hmm. J'imagine que le matin du 27 avril, il y aura beaucoup de fébrilité là, avec les petites boîtes à lunch. Et puis, bon, vous vous rendez en autobus, j'imagine.
Oui.
Ça doit être assez excitant pour eux.
Ah oui, puis à l'école, là, dans les corridors, on fait jouer la musique du défi sportif.
Mm-hmm.
Et on se promène, on crie haut et fort, on a nos chandails de l'école. C'est un beau sentiment d'appartenance puis d'équipe. Puis, ah oui, c'est magique, ces moments-là.
Et les parents vous appuient là-dedans?
Oui. Il y a des années qu'on a besoin de beaucoup d'accompagnateurs. Alors là, les parents, à ce moment-là, ils peuvent nous accompagner pour nous aider. Sinon, les parents, ils viennent les encourager dans les gradins là-bas.
Mm-hmm. Cette année, il y a quand même une nouveauté assez particulière et plutôt intéressante du côté de l'école Victor Doré. Il y a des garçons qui participeront au défi de compétition de gymnastique rythmique.
Et oui, parce que à l'école, on travaille la manipulation en cercle. On utilise comme moyen le cirque et la gymnastique rythmique. Cette année, on a fait un spectacle. Puis nous, on inclut tout le monde, garçons, filles. Puis là, il y a des gars qui se sont rendus compte que c'est pas juste pour les filles, la gymnastique rythmique, qui sont bons puis qui pourraient même gagner des médailles. Alors là, c'est vraiment par eux, là, volontairement, ils se sont inscrits.
Mais Liette, est-ce que habituellement les compétitions de gymnastique rythmique sont réservées qu'aux filles?
Non, c'est aux filles et garçons, mais on dirait que c'est dans la mentalité. On voit beaucoup plus de filles. Puis on essaie vraiment là, de faire en sorte que les garçons aussi apprécient cette discipline-là.
Et on pourra aller encourager ces trois garçons le 27 avril. C'est à quelle heure la compétition, Liette?
Les compétitions, elles se déroulent tous entre 10h30 et 13h30. Puis la gymnastique rythmique, elle est à l'aréna Michel Normandin.
D'accord, ça c'est le 27 avril. Les compétitions de volleyball le mardi 28 avril, le boccia mercredi 29 avril, l'athlétisme jeudi 30 avril du côté du complexe sportif Claude Robillard.
Oui.
Les heures, c'est toujours grosso modo ce que vous venez de mentionner, Liette?
Oui, de 10h30 à 11h30. On a le boccia le mercredi qui est à l'aréna Maurice Richard.
D'accord. Et puis, est-ce que... Bon, ça fait combien d'années, vous, en tant qu'enseignante à l'école Victor Doré, que vous participez au défi sportif Altergo?
Ça fait 21 ans.
Oh là là! Quand même, sur 32 ans, c'est bien, là. Et puis, bon, j'imagine que vous avez vu l'événement évoluer. Est-ce que vous avez des attentes particulières pour la 32e édition?
Les attentes, en fait, qu'on a, là, c'est vraiment que nos élèves aient du plaisir, qu'ils vivent une expérience positif, puis que ça soit inoubliable pour eux.
Mm-hmm. Mais on vous le souhaite, puis ça sera un plaisir de vous rencontrer dans le cadre du défi sportif. Liette Marcel, je rappelle, vous êtes enseignante à l'école Victor Doré. Merci beaucoup. Un très beau et bon défi à vous et à vos étudiants, à vos élèves.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Eh bien, comme vous pouvez le constater, on a du mal à joindre Mme Suzanne Garon, elle qui est professeure titulaire du côté de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Il semblerait qu'elle nous ait oubliés. Alors, on vous prépare une petite rediffusion. Jean-Sébastien est à y travailler. On vous revient dans quelques secondes. Eh bien, Jean-Sébastien a travaillé très vite et très fort. On a trouvé une rediffusion. Brigitte Durruty, qu'on joignait il y a de ça quelques semaines du côté de la France, elle nous parlait d'un sujet d'actualité, parents zen. Eh bien, ça crée des enfants heureux et ça crée des relations familiales harmonieuses. On vous présente cette rediffusion à l'instant. Bonjour, Brigitte Durruty.
Bonjour.
Vous êtes la co-auteure de Parents zen, comprendre le stress pour établir l'harmonie en famille, qui est publié aux éditions de l'Homme. Un livre qui tente de mieux faire comprendre pourquoi on vit autant de pression en famille. Je le disais tout à l'heure en introduction, vous n'avez peut-être pas pu entendre, c'est la période des fêtes et les routines vont être changées un peu en période de vacances. L'alimentation est changée, on cède parfois davantage aux caprices des enfants. On est plus fatigué, peut-être plus stressé, autant adulte qu'enfant. Et ça se passe pas toujours comme on le souhaite. Et c'est là, souvent, qu'on perd nos moyens en tant qu'adulte, en tant que parent.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est souvent quand il y a des changements, quand les changements d'habitude, effectivement.
Comment on peut, justement, davantage se donner des outils pour gérer ces stress-là quand ça se passe pas comme on le souhaiterait?
La première chose, c'est déjà prendre un petit peu de recul, c'est-à-dire que chaque fois qu'on ressent un petit peu de stress, pouvoir s'arrêter en disant « Oh là, je vais attendre quelques petites secondes » et puis pouvoir faire un pas en arrière. Voyez, est-ce que c'est vraiment grave ce qui se passe? qu'est-ce que j'en penserai demain? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de réagir que la façon dont je suis en train de réagir spontanément? Donc, vraiment prendre le temps de s'arrêter un petit peu et de respirer quelques secondes. Déjà, souvent, ces quelques petites secondes nous donnent une autre façon de réagir.
Oui. Vous expliquez dans votre livre, en fait, vous l'expliquez très bien, la différence en différents systèmes. Système automatique, oui. Système préfrontal, qui sera en fait le berceau d'une intelligence un petit peu plus adaptative et qui nous aiderait dans beaucoup de situations. Vous exprimez à un moment donné un tableau où il y a une lampe de cassé, il y a deux façons de réagir complètement différentes. Est-ce que cette façon de réagir de façon peut-être plus adaptée, plus adéquate, c'est à la portée de tout le monde?
Alors tout à fait, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a tous dans notre cerveau, une partie de notre cerveau en tout cas, qui est tout à fait dédicacée à la gestion des situations un peu plus complexes et qui nous procure de la sérénité. Ce qui veut dire que nous pouvons, chacun d'entre nous, faire face à des situations stressantes de la vie de tous les jours d'une autre façon. Et chaque fois qu'on fait appel à cette partie de notre cerveau qu'on appelle le préfrontal, mais ce qui se passe, c'est que on prend un peu de recul, on nuance, à ce moment-là, on change d'état d'esprit. Et au lieu d'être dans un état d'esprit qui est très automatique et qui nous fait réagir de façon un peu rigide, voyez, un peu routinière, quand on change d'état d'esprit, on se met à voir les choses avec plus de nuances, on dédramatise. On prend du recul et si on reprend l'exemple de cette lampe, mon enfant est en train de jouer et casse une lampe dans la salle manger, si je réagis de façon automatique, je veux dire ah, c'est catastrophique, je savais, il fallait qu'il aille dehors, ça m'énerve.
Qu'est-ce que mon conjoint, ma conjointe va penser que j'ai laissé faire ça?
Voilà, et là c'est une réaction qui est quelque part instantanée et qui est très automatique. Et puis je peux aussi prendre quelques petites secondes de recul et puis me dire ok, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Première nouvelle, bonne nouvelle, c'est que mon enfant s'est pas blessé. Deuxième nouvelle, c'est que finalement, j'ai peut-être pas été très claire moi sur le fait que l'enfant pouvait pas jouer dedans avec un ballon. Donc ça me remet la question de la responsabilité. C'est que j'ai peut-être ronchonné des choses, mais j'ai pas dit très clairement, écoute, non, je veux pas que tu joues dedans. Et puis si la lampe est cassée, elle est cassée.
Ouais.
À quoi ça sert qu'en plus, je rajoute une couche de stress?
Et ça peut nous amener aussi à se dire peut-être que c'était pas l'idée du siècle de mettre une lampe là. J'aurais dû peut-être rien mettre ou mettre quelque chose qui est en plastique ou qui ne se brise pas.
Oui.
Oui.
Et puis c'était peut-être pas une lampe à laquelle je tenais tant que ça. C'est peut-être l'occasion d'en changer. Et puis si c'était vraiment la lampe que j'aimais, qui était vraiment la lampe qu'il fallait pas casser, je peux me dire, mais en tout cas, la lampe, elle est cassée. Donc je vais pas rembobiner le film, je vais pas repartir en arrière.
Oui.
Donc maintenant qu'elle est cassée, quelle conclusion je tire? À quoi me sert cette expérience? Est-ce que ça me demande d'être peut-être plus strict la prochaine fois sur les règles de la maison ou mieux protéger les choses auxquelles je tiens? En tout cas, le stress ne va pas m'aider à gérer la situation.
En tout cas, on se rend compte que d'adopter le système préfrontal, en tout cas du moins d'y être plus sensibilisé, c'est beaucoup plus nourricier comme façon de réfléchir.
Alors oui, tout à fait, c'est plus nourricier parce que ça nous permet de mettre notre relation avec nos enfants en perspective.
Oui.
C'est-à-dire que plutôt que s'arrêter, si on rebondit à nouveau sur cet exemple d'un enfant qui casserait la lampe, l'éducation de mon enfant, elle ne s'arrête pas au fait qu'il casse ou pas une lampe. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de transmettre moi à mon enfant? J'ai envie de lui apprendre le respect des choses. Par exemple, la valeur des objets.
Oui.
Comment est-ce que je peux me servir de cette expérience, savoir un bris d'une lampe, un petit accident comme ça, comment, grâce à cette expérience, je peux enseigner à mon enfant qu'il y a des choses qu'il doit apprendre à respecter, qu'il y a des règles qu'il faut appliquer dans la maison. Donc, c'est vraiment mettre ça sur toute la longueur de l'éducation de mon enfant et voir plus loin que ce qui vient de se passer là, dans le présent immédiat.
Oui, ça me fait penser, cet exemple, Brigitte Durruty, à peut-être le passage qui m'a le plus marqué dans votre livre. C'est celui où une mère découvre parce que son ado lui avoue qu'il a triché à l'école. Et elle aborde cette discussion. Bien sûr, ça peut être, et on peut l'imaginer facilement, ça peut être contre nos valeurs que notre enfant triche à l'école assez facilement. On peut être interpellé, très en colère, très déçu de la situation. Mais on peut aussi décider d'entamer une discussion à savoir qu'est-ce que tu y as gagné et qu'est-ce que tu y as perdu et es-tu prêt à perdre, ou à gagner, là, suite à ces actions-là?
Tout à fait. Il y a toujours un bon côté aux choses. Hein. Donc, effectivement, un enfant qui triche à l'école, mais ça peut être finalement l'occasion d'entamer le sujet, la discussion par rapport à la tricherie. Tiens, c'est quoi l'intérêt de tricher dans la vie? Et c'est quoi les risques de tricher dans la vie? Quelles peuvent être les conséquences? Et on peut reporter ça. Surtout, imaginez un enfant qui volerait, par exemple, dans un magasin et puis qui se fait attraper par la police. Ça peut être une belle occasion d'aller le responsabiliser sur c'est quoi les conséquences du vol. Et parfois, un petit vol qu'un enfant ferait à 12 ans va l'amener à réfléchir et à devenir plus responsable que s'il n'avait pas commis ce petit délit. Donc, la vie n'est pas quelque chose de linéaire. Et en tant que parent, ça peut être intéressant de se servir de ces petites expériences de la vie pour amener notre enfant à grandir.
Ouais.
Et moi, ça me rappelle une discussion que j'avais avec mes enfants il n'y a pas très longtemps, où je leur disais, en tant que maman, on a toujours envie de souhaiter à nos enfants une vie où il n'y aura pas d'épreuves. Ils ne vont pas avoir de difficultés, les choses vont être simples pour eux, ils vont avoir les jobs qu'ils veulent, rencontrer les amours qu'ils se souhaitent dans la vie, avoir une belle maison. Et en même temps, je me disais, mais ce n'est pas possible, ça n'arrive dans aucune vie. Et je disais à mes enfants, en fin de compte, je ne vais pas vous souhaiter de ne pas vivre d'épreuves. Ça serait illusoire. Et les gens qui ne vivent pas d'épreuves sont des gens qui ne se dépassent pas. Ce que je vais vous souhaiter, c'est chaque fois que vous aurez une épreuve, c'est avoir la capacité de retomber sur vos deux pattes et avoir cette capacité en vous d'avoir suffisamment de confiance pour toujours voir le côté positif des choses et rebondir dans les épreuves que vous rencontrerez, quelles que soient les épreuves. Parce qu'il n'y a pas une vie qui ne soit pas parsemé d'épreuves.
Oui. Et de se servir de ces expériences-là aussi d'un côté avantageux. Et j'ai envie de vous diriger, Brigitte, vers le stress. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Le stress qui peut être nuisible, mais qui peut également nous servir.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, le stress, d'abord, c'est une émotion. Donc, quand je ressens du stress, je peux me dire, mais tiens, c'est quelle émotion que je ressens et qu'est-ce que cette émotion est en train de me dire? Donc, quel est le message qu'il y a derrière? Et puis, la bonne nouvelle aussi par rapport au stress, c'est que ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que c'est toute une cascade hormonale, le stress. Et quand on est stressé, on produit aussi une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du lien. Donc, le stress est souvent quelque chose qui nous amène à aller demander de l'aide aux autres. Et on découvre aujourd'hui que les gens qui sont stressés et qui osent aller demander de l'aide ou qui s'occupent des autres, donc des gens qui sont en lien social, n'ont pas d'effet négatif, ne subissent pas d'effet négatif de leur stress. Donc ça devient quelque chose d'intéressant aussi. Ce n'est pas le stress qui est vraiment négatif, c'est le fait de rester bloqué dans ces états-là.
Oui, et j'imagine de la façon dont on l'exprime, qui peut être soit positif ou plus négatif.
Tout à fait. Alors, les anglophones font bien la dissociation entre les deux. Ils parlent de distress. Chaque fois qu'on est dans ces états de détresse, vraiment qui sont des états qui nous coûtent. Et puis, on parle de eustress, donc ce serait le stress utile, qui est le stress qui va être un moteur, qui va vraiment nous mettre en action pour aller rechercher du sens ou pour aller changer notre position, en tout cas changer le modèle qu'on est en train de mettre en place. Et donc ça, c'est le stress utile, c'est la motivation. C'est ce qui nous fait avancer.
Oui. Brigitte, j'ai envie de m'adresser aux parents qui nous écoutent et qui se reconnaissent bien dans les états que j'ai nommés tout à l'heure à cette approche du temps des fêtes avec les enfants, de voir que la routine va être chambardée, que ça va peut-être générer des conflits, que ça va être difficile à gérer. Comment on peut, par des trucs concrets, mieux prendre conscience de notre stress, de notre état pour tenter de désamorcer ça?
Alors, on revient toujours à la même chose. La seule façon de prendre conscience de son état, c'est de s'arrêter un tout petit peu. Ne serait-ce que quelques petites secondes en disant, mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est valable pour tout. Si vous êtes en train de travailler comme un fou sans vous arrêter, vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez soif, ou que vous avez trop chaud, ou que vous avez froid. Donc, pour pouvoir changer un comportement, il faut s'arrêter en disant, mais tiens, j'ai faim, ou j'ai chaud, ou j'ai froid. Eh bien, le stress est pareil. C'est quand on est pris dans la vie quotidienne avec nos enfants ou avec notre famille, c'est pouvoir s'arrêter quelques secondes en disant qu'est-ce qui se passe là ? Dans quel état je suis ?
Oui.
Est-ce que je suis plutôt dans la fluidité, dans la joie, dans des choses qui sont faciles ? Au contraire, la chance qu'il y a quelque chose qui monte et qui est en train de m'empêcher de réfléchir et de réagir avec fluidité et sérénité.
Oui, ça me fait penser à cet exemple que vous donnez dans le livre où, au cours d'un repas familial, les deux parents réagissent de façon complètement différente. Un est énervé, mm-hmm. a envie de lever le ton, de chicaner les enfants qui n'ont pas beaucoup de tenue à table, et l'autre est beaucoup plus dans l'humour, beaucoup plus calme. Donc, d'avoir aussi la capacité parfois de laisser à l'autre le relais, de dire « je pense que tu t'en sors mieux que moi aujourd'hui ».
Oui, oui. Ben oui, parce que d'abord, je connais aucun parent qui soit toujours tout le temps serein, calme. Donc, c'est pouvoir passer le relais à l'autre aussi, ou à un parent, à un grand-parent ou à un oncle, et pouvoir se dire, ben, tiens, moi aujourd'hui, j'y arrive pas, fais-le à ma place. Et ça permet aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul dans notre rôle d'éducation avec nos enfants. Même quand on est dans des cellules monoparentales, on a toujours la possibilité d'avoir un relais, d'avoir le concours de quelqu'un d'autre.
Oui.
C'est pas très grave, si l'autre le fait mieux que nous, tant mieux.
Oui, certainement.
C'est une bonne nouvelle.
En terminant, parce que le temps file, j'ai envie aussi d'amener l'attention des auditeurs à ce potentiel de calme que vous valorisez dans le livre et qui, ben, on peut tous le développer, ce potentiel-là.
Oui. Tout à fait. Ça, c'est la très, très bonne nouvelle des neurosciences qui nous valident que le cerveau est plastique. Donc, j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est que si vous voulez être calme, entraînez-vous tous les jours. C'est comme n'importe quelle pratique, n'importe quel sport. Si vous êtes bon au tennis, ben, vous allez taper votre balle plusieurs fois par semaine. Mm-hmm. Ben, si vous voulez vous entraîner à être plus souple, et plus souple, ça ne veut pas dire de laxiste, hein. C'est-à-dire être plus serein en famille, cultivez votre calme. Entraînez-vous tous les jours à prendre un petit peu de temps pour relativiser, pour respirer. Pensez à regarder le côté positif des choses. Mm-hmm. Pensez à chanter régulièrement, pensez à rire. La vie est belle, donc c'est pouvoir penser aussi à mettre de la légèreté dans les situations pour pouvoir les dédramatiser.
Et la vie est belle en famille aussi.
La vie est belle en famille, donc c'est pour ça que ça vaut la peine de ne pas se la pourrir non plus parfois pour des petits détails qui ne sont que des petits détails.
Mm. Brigitte Durruty, ça a été un plaisir de parler avec vous. Je sais qu'il est tard. Vous êtes en Belgique, c'est ça, hein?
Oui, là, je suis en France.
Ah, vous êtes en France, donc il est tard de votre côté. On va vous laisser aller vous reposer. Vous êtes la co-auteure de Parents Zen, Comprendre le stress pour établir l'harmonie en famille. C'est publié aux Éditions de l'Homme. Et je laisse édition www.edition-homme.com. On pourra aller visionner des vidéos, également vidéo TED que vous offrez sur justement comment garder son calme en toutes circonstances. Ça a été un plaisir de vous parler. Joyeuse fête à vous.
Joyeuse fête à vous, c'est un plaisir et bonne fête à tous les auditeurs.
Au revoir.
Au revoir.
Ben, bien sûr, vous aurez compris que c'est une rediffusion, c'était pendant la période des fêtes, mais bon, c'est toujours la fête hein, quand on parle de nos enfants et de famille. Bien, merci d'avoir été là, désolée pour cette confusion. Demain, on sera au poste avec d'autres sujets à aborder avec vous. Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Marianne Paquette. Portez-vous bien, bel après-midi, à demain.